France Info.
Thomas Snegaroff, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Spécialiste des États-Unis en studio, vous allez nous donner votre sentiment. Thomas, mais passage par Washington pour commencer. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Nicolas.
Correspondant de France Info aux États-Unis où la Maison Blanche semble prendre l'eau de toutes parts. Décrivez-nous la semaine lunaire que vient de vivre l'Amérique.
Ah bah, voici un peu à quoi ressemble le tableau en ce 21 décembre, donc à quelques jours des fêtes. Un, le Pentagone n'a plus de patron, alors que Trump vient d'annoncer le retour à la maison des troupes déployées en Syrie et qu'il s'apprête à faire la même chose pour l'Afghanistan, avec sans doute un rapatriement de la moitié du contingent américain déployé sur place. Deux, à la Maison Blanche, le chef de cabinet, le général Kelly, s'en va dans quelques jours. La presse américaine disait il y a peu qu'il n'adressait plus la parole au président. Trois, au moment où je vous parle, il y a un fort risque de shutdown. Si d'ici minuit ce soir, heure de Washington, le Sénat ne vote pas le budget fédéral pour les prochaines semaines, eh bien on aura droit à la fermeture d'une partie des administrations du pays, 800 000 fonctionnaires envoyés chez eux faute d'argent pour les payer. Et puis 4, au milieu de ce chaos, vous avez un président, Trump, qui depuis 6h30 ce matin est en roue libre, si je puis dire, sur les réseaux sociaux, avec une quinzaine de messages en tout publiés sur Twitter. Et surtout un président, vous l'avez dit, de plus en plus seul dans son bureau ovale. Les trois généraux qui l'entouraient et dont on dit qu'ils étaient un peu la voix de la raison dans son équipe sont partis ou vont partir. McMaster, Kelly et donc Mattis, parce que les désaccords avec le président étaient trop importants, parce que les positions étaient irréconciliable, et en ce qui concerne le général Mattis, sur des sujets aussi essentiels que la présence américaine en Syrie ou en Afghanistan.
Bon, Thomas, on a l'habitude de décrire une situation chaotique aux États-Unis depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui fait que là, c'est un peu plus grave, docteur ?
Bah, c'est un peu plus grave parce qu'il y a, comme Grégory le rappelait il y a un instant, parce qu'il y a la succession d'événements. Et puis, il y a effectivement dans quelques heures peut-être 800 000 fonctionnaires américains renvoyés chez eux. Mais renvoyés chez eux, pas uniquement, comme d'habitude, parce qu'il y a une guerre entre républicains et démocrates. Ils sont d'accord au Congrès pour trouver des fonds pour au moins repousser jusqu'à février la question budgétaire. Non, ce qui est en train de se jouer, c'est un président dans son bureau, ovale, il tourne en rond dans un bureau ovale, ce qui n'est pas bien, mais il arrive à le faire. Et dans ce bureau ovale, que nous dit le président ? Il dit, si vous ne accordez pas 5 milliards pour mon mur, le fameux mur avec le Mexique, eh bien, je ne signerai pas cet accord budgétaire, pourtant négocié par les chambres, par le Congrès, il y a quelques jours. Donc voilà où on en est, un président capricieux, isolé, et avec en plus un ministre de la Défense qui part avec une lettre publique dans laquelle il met en cause la stratégie globale menée par les États-Unis et le vide géopolitique dans lequel les Chinois et les Russes s'engouffrent.
Ça provoque quelle réaction, Grégory, aux États-Unis ? Le même sentiment de caprice du président Trump, on touche quand même à des sujets graves, là, hein, l'armée, le retrait de Syrie, d'Afghanistan.
Ah bah, les réactions les plus intéressantes sont celles du côté républicain, du côté des sénateurs républicains, y compris de certains qui étaient considérés ou qui sont considérés comme des proches du président et qui sont sonnés par la démission ou le départ du général Mattis et par cette décision de retrait de Syrie et peut-être bientôt d'Afghanistan, et qui critiquent de manière extrêmement virulente la gestion de ce dossier par la Maison Blanche. Donc même au sein du camp républicain, il y a des gens qui disent attention, ce sont des décisions stratégiques lourdes et que le président ne peut pas prendre seul sans consulter ni les généraux qui l'entourent, et en tout cas sans se brouiller avec tout son entourage.
Thomas ?
Oui, parce que sur le cas très très précis de Mattis, ce qu'on sait, c'est que Trump fait savoir sa décision, Mattis va le voir, lui dit ce n'est pas une bonne idée, c'est une mauvaise stratégie, il en a parlé avec les généraux sur le terrain, personne n'est vraiment d'accord avec cela au Pentagone, et Trump reste ferme, et Mattis dit, mais dans ces conditions, je démissionne. Et le président américain accepte cette démission, préfère cette démission, quitte à tenter à un moment donné de la transformer en départ en retraite voulu par Mattis, mais en réalité pas du tout, et la lettre l'a prouvé. Donc il y a vraiment des rapports de force extrêmement tendus, et Grégory le rappelait, les trois généraux qui ont démissionné ou qui démissionnent dans l'année 2018, McMaster, Kelly et Mattis, donc depuis hier, étaient tous les trois l'incarnation d'une forme d'homme d'État, de rigueur, de nuance autour du président américain, des gens qui étaient là et qui l'avaient dit, on reste là, bien sûr, on n'est pas d'accord avec tout, mais on reste là parce qu'on sait que si on part, c'est pire que si on est là. Parce que si on est là, au moins, on peut essayer d'éviter le pire. Ils sont plus là.
Je parlais du Titanic, Grégory, les tweets matinaux de Trump par avalanche, c'est un peu l'orchestre qui continue de jouer chaque matin.
En fait, c'est peut-être un moyen pour nous, observateurs, de prendre un peu la température de ce qui se passe dans le bureau ovale. Et là, quand on a 15 tweets dans la matinée depuis 6h30 sur des sujets qui varient de la Syrie au général Matisse, à des messages qui attaquent le Parti démocrate sur l'histoire du budget, qui décrit le mur que le président souhaite à la frontière mexicaine comme étant aussi essentiel et simple que l'invention de la roue. voilà, on a quand même des messages qui dénotent, pour rester poli, une agitation de la part du président et en tout cas un sentiment de panique un petit peu à la Maison Blanche. Quand je dis que c'est un bon thermomètre, là la température est vraiment très haute et on dépasse les 40 degrés.
Merci Grégory Phillips. Un dernier mot, Thomas.
Oui, et ces tweets nous disent aussi autre chose, c'est à quel moment Donald Trump est au travail. Et en ce moment, il arrive au travail en fin de matinée et il repart en fin d'après-midi. C'est extrêmement peu pour un président très peu présent, qui s'est isolé. Ça fait aussi partie du personnage, mais là effectivement, ça devient un petit peu inquiétant.
Alors que vous serez là même pendant les vacances de Noël. Thomas Snegaroff, historien et spécialiste des États-Unis à France Info.